Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troiano, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon et Nora Litoussi, réalisé par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Guillaume Ficheux. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée aux poissons, aux conséquences écologiques, économiques, diplomatiques de notre appétit jamais rassasié pour le poisson. Hier, le thon rouge, de retour dans l'Atlantique et en Méditerranée après des années d'efforts et de quotas. Demain, nous parlerons du merlu, du hareng, du cabillaud, les poissons de la discorde dans les eaux britanniques. Aujourd'hui, le saumon, rien qu'en France, on en mange 3 kilos par personne et par an, et c'est surtout du saumon d'élevage.
Le processus démarre par un œuf que nous faisons éclore en laboratoire. Quand le poisson a atteint cette taille, une centaine de grammes, on le met dans ce bassin. Ça nous prend un an en laboratoire, puis 1 à 2 ans de plus ici dans la mer avant que le poisson n'atteigne son poids adulte de 5 kilos. C'est une méthode d'élevage très efficace.
C'est le pétrole de demain. C'est de la nourriture, de la bonne nourriture. Et on est très fiers de produire de bons saumons.
Voilà, on est devant le rayon saumon. Les prix sont accessibles, hein, 6 euros, 5 euros. Derrière ces prix bas, il y a de l'élevage intensif, il y a des résidus de métaux lourds, de pesticides et d'antibiotiques. Il y a une grande dose de souffrance animale, il y a des colorants de synthèse. Voilà, c'est tout ça qui se cache derrière ces beaux packaging.
Le 19 août 2017 commençait une journée ordinaire à Cypress Island au large de l'État de Washington, États-Unis. 300 000 saumons se réveillent dans leurs enclos. Ils prennent un petit déjeuner copieux à base de farine de poisson sauvage, leurs désormais lointains ancêtres. Ils ont fait leur toilette, leur shampoing anti-poux. Tout s'est passé sans incident jusqu'à ce qu'un des détenus brise la serrure de l'enclos, profitant des grandes vagues provoquées par une éclipse de lune à venir. L'appel d'air est irrésistible, ses co-détenus prennent sa suite et ce sont des dizaines de milliers de saumons qui se répandent en quelques heures dans le Pacifique. Aucun pourtant n'était connu des services de police. Des évasions de saumons d'élevage, il y en a partout où l'industrie s'est développée, en Norvège, en Écosse, au Chili et ailleurs. Saumons qui s'accoupleront avec les poissons sauvages et leur transmettront au passage leurs gènes, leurs maladies et parasites. C'est l'un des dangers de ce modèle intensif qui a largement supplanté la pêche et ce depuis plus de 20 ans. En Norvège, le saumon d'élevage est le deuxième produit d'export après le pétrole. Si l'industrie du saumon s'est progressivement vue imposer des normes pour limiter les dégâts environnementaux, quels risques subsistent aujourd'hui ? Pourquoi l'aquaculture est-elle l'alternative à la pêche ? Nous en parlons aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Marc Van de Put.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes animateur du groupe piscicole de l'INRAE, qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique. Vous êtes aussi le futur président de la Société Européenne d'Aquaculture. Nous sommes également avec Bastien Sadoul. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes enseignant-chercheur en aquaculture à l'Institut Agro, qui est l'Institut National d'Enseignement Supérieur pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Alors avant de parler avec vous deux de saumon d'élevage, que reste-t-il d'abord de saumon sauvage, de ceux qui naissent en eau douce avant de rejoindre la mer, d'y rester 1 à 3 ans, puis de retourner là d'où ils viennent, quitte à parcourir des milliers de kilomètres, à nager à contre-courant, à remonter des fleuves, à franchir des barrages? Où sont-ils aujourd'hui ces saumons là, Marc Van de Put?
Alors ces saumons, en fait, il faut séparer les choses. Dans le saumon, il y a deux mondes. Il y a le monde de l'océan Atlantique et le monde de l'océan Pacifique. Aujourd'hui, les saumons sauvages, ils sont essentiellement dans l'océan Pacifique. Donc, ils remontent les rivières du côté russe, du côté américain. Ils se reproduisent et ils grandissent dans l'océan. Et dans l'océan Pacifique, on a essentiellement une pêcherie de saumons sauvages. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très largement soutenus par de l'alvinage. C'est-à-dire que dans le Pacifique, on déverse plusieurs milliards de jeunes saumons chaque année qui ensuite vont remonter dans les rivières où on les a déversés.
Ça se fait encore.
Le saumon... Hein?
Ça se fait encore, ça, donc de prendre des saumons qu'on déverse,
encore, oui, ça,
et pas par accident, mais vraiment intentionnellement.
Intentionnellement, tout à fait. En fait, on capture des saumons adultes qui arrivent à l'embouchure des rivières, on les fait se reproduire et on relâche les petits. Dans l'océan Atlantique, il y a aussi des populations sauvages, mais qui fonctionnent de manière beaucoup plus naturelle, si j'ose dire. Et par contre, là, la production, elle est assurée par de l'élevage. Donc, si vous regardez le saumon de l'Atlantique, en gros, on produit 2 900 000 tonnes de saumon d'élevage, et il reste à peu près 1 000 tonnes de capture de saumon sauvage.
Est-ce que la pêche a été réglementée du saumon sauvage? En Norvège, par exemple, il en existe encore dans les nombreuses rivières qui parcourent la Norvège. De moins en moins, dit-on. Est-ce que la pêche, est-ce qu'elle est encadrée, réglementée?
Oui, c'est réglementé. Il y a le Conseil international pour l'exploitation de la mer qui fait des états des stocks des saumons régulièrement et qui évalue les capacités possibles de pêche. Mais qui sont très très limités, parce que effectivement, enfin, c'est des petites populations.
Souvent, quand ils sont attrapés, ces poissons sauvages, ils sont relâchés. Il est interdit d'en attraper 10 mois sur 12 à peu près en Norvège. Alors, Bastien Sadoul, dans la consommation annuelle de saumon, cette fois, que représente la part de saumon d'élevage, la part de saumon sauvage?
Oui, alors, la part de saumon... tout dépend de quel saumon on regarde. Hein, c'est ce que disait Marc à l'instant. Si on regarde le saumon atlantique, donc le saumon atlantique, en fait, sa quantité, son abondance, elle avoisine à peu près les 3 millions, 4 millions d'individus. Ça, c'est des estimations qui sont faites par une organisation de conservation du saumon, la NASCO. Cette quantité, elle a largement baissé depuis les années 80. On estime que l'abondance a été divisée à peu près par deux. Donc, comme le disait Marc, il y a 1 500 tonnes qui sont pêchées de saumon atlantique. Donc, en fait, la part de consommation, pour répondre à votre question, sur le saumon atlantique, la part de la consommation qui vient de la pêche, elle est minime. Donc il faut comparer 1 000 tonnes à 2,8 3 millions de tonnes produits pour le saumon atlantique.
Marc Van Depuy.
Non.
Oui, pardon.
Beaucoup plus que ça, 2 000 fois plus quoi.
Marc Van Depuy,
on passe de 1 500 à 3 millions de tonnes.
Ah oui, il y a 3 millions, pardon. Marc Van Depuy, vous vouliez réagir?
Oui, c'est juste une précision en fait, parce que pour nous c'est évident, mais je me rends compte que ça l'est pas du tout pour tout le monde. Quand on parle de saumon de l'Atlantique, c'est une espèce, et les saumons du Pacifique sont plusieurs espèces, mais ils sont pas du tout les mêmes espèces. Voilà, c'est dans le Pacifique, il y a 5 espèces de saumons qui sont exploitées commercialement. Dans l'Atlantique, il y en a une. C'est pas le même poisson.
Alors, restons sur le saumon atlantique, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on sait quand la production aquacole a dépassé la pêche de saumon sauvage? Quand s'est produite cette bascule, Marc Van Depuy?
Alors, si on compte le saumon de l'Atlantique, c'est il y a très longtemps. C'est dès les années 90, en fait, la production d'élevage a dépassé la production sauvage. Si on compte l'ensemble du saumon, donc les saumons du Pacifique plus le saumon de l'Atlantique, le saumon du Pacifique, en gros, il y a à peu près 1 million de tonnes qui est produit chaque année. Et le saumon de l'Atlantique, il a dépassé le million de tonnes en 2000.
Bastien Sadoul, est-ce que l'aquaculture a, dans un premier temps, été pensée comme une alternative à la pêche sauvage dans une logique de préservation des bancs de poissons et des stocks de poissons, comme on dit, dans les océans?
Alors, comment elle a été pensée, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été développée pour répondre à la demande. Une demande qui a vraiment explosé dans les années 80-90, qui continue à augmenter. L'aquaculture est devenue très rapidement le moyen pour répondre à la demande. Et donc, c'est une demande qui continue à croître. Et puis, le saumon, c'était vraiment le repas de fête, le repas qu'on mangeait à Noël, quelques fois par an. Maintenant, c'est devenu un poisson qu'on peut manger presque tous les jours, quoi. C'est vraiment devenu extrêmement abordable. Et ça, c'est grâce à une offre qui est largement augmentée.
Une offre qui, notamment, est faite de la part de la Norvège, gros producteur de saumon, du Chili, de l'Écosse, de l'Irlande. En Écosse, un militant pour Scottish Salmon Watch témoigne ici dans le magazine d'Hugo Clément sur le front en novembre sur les premières conséquences écologiques qu'il a commencé à voir dans la ferme piscicole près de chez lui.
Ça, c'est la nourriture qu'on leur envoie. C'est de la fausse nourriture, artificielle, industrielle. Et vous voyez ça, c'est une palette de couleurs pour choisir la teinte du saumon. Vous pouvez ajouter des colorants dans leur nourriture et ils auront exactement la couleur que vous voulez. S'ils n'ajoutaient pas ce colorant de synthèse, la chair du saumon serait grise. Et les études sur les consommateurs ont montré que personne ne veut acheter du saumon gris.
Alors, outre les colorants utilisés pour rendre le saumon plus rose, plus appétissant, paraît-il, dans les rayons des supermarchés, déjà, est-ce que des réglementations ont été prises ces dernières années pour que ce saumon soit un petit peu moins rose, un petit peu moins chargé en colorants? Et surtout, ces saumons d'élevage sont-ils toujours nourris avec des poissons sauvages? Donc cette pêche minotière intensive de poissons qui seront transformés par la suite en farine ou en huile, Marc Van de Put.
Alors, sur les colorants, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces colorants sont des molécules qu'on retrouve naturellement dans les crustacés. Une des principales, c'est ce qu'on appelle l'astaxanthine. Son nom vient de asta, comme astacus, l'écrevisse. Et c'est eux qui donnent aussi la couleur rose du saumon sauvage, alors qu'il est souvent moins rose, parce qu'effectivement, comme ça a été très bien dit, le consommateur, on peut presque dire que plus le saumon est rouge, plus il va lui plaire. Donc il y a effectivement ces additifs qui sont dans l'alimentation des saumons. Pour ce qui est des farines et des huiles de poisson qui sont utilisées dans l'aliment, dans les années 90, au début de l'élevage, l'aliment du saumon, il était en très très grande partie composé de ces farines et de ces huiles de poisson. Pourquoi ? Parce que le saumon, c'est un poisson carnivore, et son régime naturel, c'est de manger des crustacés, des poissons. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a pris ces petits poissons de pêche, on les a réduits en poudre, cette farine de poisson, parce que c'est plus facile à transporter que du poisson frais. Et on nourrissait les poissons avec ça. Et ça marchait très bien. Sauf que la quantité de farine, enfin de petits poissons qu'on peut réduire en farine, au niveau mondial, elle n'est pas du tout illimitée. Et si, dans les années 80, la pisciculture au niveau mondial, ça ne représentait pas grand-chose, ça représentait de l'ordre de 8 millions de tonnes, là, on pouvait très bien tout nourrir avec ces farines de poissons. Aujourd'hui, on est plutôt à 100 millions de tonnes de production piscicole. Et là, si on continuait à les nourrir comme on le faisait avant, ça ne marcherait plus.
Donc on a réduit cette partie-là.
On utilise beaucoup moins de farine et d'huile de poisson dans l'aliment aujourd'hui.
Qu'on a remplacé.
Ça a été réduit par un facteur 4 ou 5 au moins.
Qu'on a remplacé par du soja, du blé, du gluten, ce qui pose aussi d'autres problèmes environnementaux, l'utilisation de terres agricoles, la déforestation aussi. Bastien Sadoul, est-ce qu'on est arrivé à trouver une solution à peu près équilibrée pour nourrir ces poissons d'élevage ?
Alors oui, on est arrivé à réduire fortement, comme le disait Marc, la quantité de poissons qu'on met dans l'aliment. Donc on est parti à des niveaux extrêmement élevés hein, dans les années 90. On tourne maintenant autour de 20-25% hein, de part d'aliments issus de la pêche pour nourrir les saumons. Le reste, c'est donc du végétal, qui peut avoir des impacts comme toute production végétale hein, sur son environnement, donc utilisation des terres, émissions de gaz à effet de serre, un ensemble de choses qui sont exactement les mêmes que si on faisait une production végétale. Sauf que là, il y a un intermédiaire, hein, c'est donc le saumon, et puis il y a un intermédiaire avant ça, c'est le producteur d'aliments. Donc, un ensemble une chaîne qui fait qu'à la fin, on a un certain impact sur l'environnement avec cette production de saumon. Donc maintenant, on estime que on tourne autour de 16-20 millions de tonnes de poissons sauvages qui sont utilisés pour l'aquaculture. Voilà, rien que pour la Norvège, hein, c'est 2,1 millions de tonnes. Ça veut dire que donc on a 2 millions de tonnes de saumon, de poissons sauvages qui rentrent en Norvège, et il y en a 1,5, 1,6 qui sort. Donc ça veut dire qu'on commence à réduire ce que l'on appelle le fish in, fish out, la part de quantité de poissons nécessaire pour produire un kilo de saumon. On commence à arriver autour de 1. Ça veut dire qu'il faut rentrer un kilo de poissons sauvages pour sortir un kilo de saumon. Donc là, on commence à être bien meilleur. Malgré tout, une demande extrêmement forte pour ces petits poissons sauvages. Et donc, des problèmes potentiels derrière pour les stocks de ces petits poissons sauvages, et puis aussi pour l'alimentation potentiellement d'autres populations humaines.
Est-ce que le saumon d'élevage aujourd'hui est le même que celui d'il n'y a ne serait-ce que 20 ans, ou est-ce que d'année en année, Marc Van de Put, une sélection s'est opérée favorisant les plus gros, les plus gras, les plus résistants aux maladies?
Alors elle s'est pas opérée toute seule, on l'a opérée. Hein, c'est un des aspects. Enfin, quand le gouvernement norvégien a décidé de développer ce secteur stratégique, et on voit qu'il l'est aujourd'hui puisque c'est leur deuxième poste d'export, ils ont décidé aussi d'optimiser tout le système de production, et y compris la sélection génétique pour avoir des animaux plus aptes à l'élevage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les animaux d'élevage qu'on connaît habituellement, le cochon, le bœuf, le poulet, ça fait des milliers d'années que l'homme les a domestiqués. Le saumon, en 1970, il était sauvage, il n'y avait pas de saumon domestique. Et ce qu'on a fait par de la sélection génétique, c'est domestiquer ce poisson et en faire un animal domestique, donc qui va pouvoir valoriser mieux l'aliment qu'on lui donne, qui va grandir plus vite, qui va être résistant à certaines maladies, qui va avoir une couleur de chair plus affriolante, qui va avoir le bon taux de gras dans sa chair pour qu'il soit moelleux et agréable à manger. Enfin, voilà, toutes ces choses ont été sélectionnées de manière optimisée par méthode de sélection génétique classique. On choisit les meilleurs parents pour obtenir des descendants qui se rapprochent de ce qu'on considère être l'optimum d'un bon poisson pour l'élevage.
Il y a par exemple au Canada une société américaine qui devait vendre, alors est-ce le cas, je ne sais pas, devait vendre des saumons atlantiques qu'elle faisait grandir dans des bassins à terre sur l'île du Prince-Édouard et qui ont reçu des gènes de deux autres espèces. Là, c'est vraiment recevoir des gènes et non pas opérer juste une sélection. Deux espèces, ça devait leur permettre à la fois de grossir et de grandir plus vite et d'être moins sensibles aux saisons. Alors ces modifications génétiques, qu'elles soient brutales comme celle-ci ou qu'elles se fassent sur le plus long terme, elle pose particulièrement problème quand ces saumons d'élevage s'échappent de leur ferme piscicole et se déversent dans les océans ou les rivières.
Il y a des rivières où le saumon sauvage a presque disparu. Sur 15 saumons pêchés, 10 à 12 seront des poissons échappés des fermes d'élevage. Ils auront l'air sauvages. Mais en fait, ce seront des croisements entre saumon sauvage et saumon d'élevage survenus il y a des années. Et ça, c'est un gros problème.
Reportage de l'émission L'effet papillon, c'était en 2017 auprès d'un biologiste norvégien. Est-ce qu'il arrive encore souvent, Bastien Sadoul, que des saumons d'élevage s'échappent de leur enclos, ou est-ce que des mesures drastiques du type cachot ont été prises pour éviter les évasions des poissons détenus ?
Oui, alors ça, malheureusement, ça arrive hein, encore. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour essayer d'améliorer les choses. Mais en effet, on estime à 160 000 poissons en Norvège qui sont généralement échappés des piscicultures de saumon.
Chaque année.
Chaque année, voilà. Donc ça, il me semble que le chiffre que je vous donne, ça doit être il y a quelques années, en 2018, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est des chiffres qui ont largement réduit sur les dernières années, parce qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits énormément d'efforts qui sont faits. Et puis la Norvège commence à mettre en place, hein, depuis des dizaines d'années, des normes pour forcer le producteur à éviter les échappements. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que forcément un producteur, il a aucun intérêt à laisser sortir des saumons. C'est de la perte d'argent pure. Donc lui va tout faire également pour éviter les fuites. Mais dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a des filets qui s'ouvrent, il y a potentiellement des milliers de saumons qui s'échappent d'une cage. Il faut avoir conscience qu'en fait, dans des cages, il y a des centaines de milliers de saumons. Donc, à partir du moment où on ouvre et qu'il y a un trou, en fait, on se retrouve avec beaucoup de fuites. Et donc, ces individus qui sont génétiquement sélectionnés, pas transformés, hein, donc ce que vous avez mentionné tout à l'heure au Canada, c'est des choses qu'on retrouve pas du tout, hein, chez nous, hein, c'est en effet une entreprise qui a réalisé un poisson transgénique, mais en fait sans intérêt économique derrière, donc ça s'est pas du tout développé au Canada et en Europe ça n'aurait pas été autorisé de toute façon.
D'accord.
Donc c'est bien des saumons génétiquement sélectionnés qui fuient les cages et puis qui vont potentiellement se reproduire avec les populations sauvages.
Ouais, qui peuvent s'accoupler avec des saumons sauvages, et c'est là qu'on parle d'hybridation génétique, de modification génétique. Marc Van de Put, puisque vous êtes généticien et que par ailleurs vous parliez tout à l'heure des animaux domestiques, vous y avez une comparaison entre le saumon d'élevage et les animaux domestiques. Cette hybridation génétique qui a lieu quand des poissons d'élevage s'accouplent avec des saumons sauvages, est-ce que elle dérange surtout les lords anglais qui vont en Norvège pour goûter le luxe de manger du poisson sauvage pure race, entre guillemets, comme on dit, d'un chien? Ou est-ce que c'est un vrai problème écologique?
Alors, c'est certainement un vrai problème. On a du mal à le quantifier exactement. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les saumons d'élevage qui s'échappent, ils vont pas tous et de loin dans les rivières, parce que ils ont plutôt tendance à rester autour des cages où on les nourrit que d'essayer d'aller dans les rivières. Et quand ils vont dans les rivières, ils sont plutôt moins aptes à la reproduction que des saumons sauvages. Ce qui est d'ailleurs une des choses qui pose problème, puisque ça vient en partie de leurs gènes. Et donc s'ils se croisent avec les saumons sauvages, on risque d'avoir des saumons après moins aptes à la reproduction. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, bon, alors le laboratoire à grandeur nature de ça, c'est la Norvège, hein, puisqu'on a à la fois un élevage en très grande quantité et de nombreuses rivières avec des saumons sauvages, et on a des taux de contamination des populations sauvages avec des gènes domestiques qui vont en gros entre 5 et 20% à peu près. Donc c'est pas négligeable. Et on a pu montrer assez récemment que ça avait un impact sur des caractéristiques importantes du saumon. Par exemple, le temps qu'ils vont passer en mer avant de monter se reproduire. Et ça, on sait que c'est modifié chez des animaux qui ont plus ou moins de gènes d'origine d'élevage. L'impact que ça a sur la survie des populations, on ne sait pas encore le quantifier. Mais on sait que ça modifie des traits importants. Et l'autre chose par rapport aux disparitions des saumons, je pense que c'est un peu simple de dire c'est l'hybridation avec le sauvage, parce que même dans les rivières où il n'y a absolument pas d'élevage, et je pense en particulier aux rivières françaises, on note une très forte diminution des retours de saumons dans les dernières années, et là ça ne peut pas être lié à l'élevage, puisque dans ces rivières-là, il n'y a pas d'hybridation, il n'y a pas d'élevage.
Les rivières de l'Allier, de la Loire et de la Bretagne notamment, où se trouvent encore des saumons qui restent sauvages. Alors, ces saumons d'élevage, quand ils s'accouplent avec des saumons sauvages, on n'est pas absolument sûr des effets que ça donne en termes génétiques. En revanche, on sait qu'ils transmettent leur pouls. Très souvent, c'est un énorme problème que les pays producteurs de saumons d'élevage connaissent bien, les pouls des saumons qui font quelques millimètres grignettes qui viennent grignoter la peau et la chair des poissons, qui les blessent et les tuent, et le fait aussi de les traiter. Alors on a, je crois, diminué les insecticides, et puis les insecticides sont devenus, enfin les poux sont devenus résistants aux insecticides. Maintenant on transfère les poissons dans d'autres eaux, on les nettoie hors des cages dans une eau chaude. Chaude pour un saumon, c'est 28 degrés, c'est même brûlant pour un saumon qui a besoin d'eau froide, ce qui parfois casse le cycle de production. Enfin, ça pose plusieurs problèmes. Donc la Norvège a mis en place un règlement. Tous les 15 jours, les aquaculteurs doivent faire des comptages des poux de mer. Bastien Sadoul, comment on compte les poux de mer et quelles mesures ont été prises pour les éviter?
Alors oui, les poux de mer, c'est un gros problème, pour l'élevage et pour les populations sauvages, parce qu'en effet, ils sont transmis aux populations naturelles. Donc en fait, les poux, ils se développent parce que on est dans des productions qui sont très intenses, avec, comme je le disais tout à l'heure, énormément de saumons sur une zone, et donc un parasite comme le pou du saumon, donc c'est un petit copépode qui se développe sur la peau du saumon, et donc qui va lui poser des gros problèmes de santé. Et donc c'est un énorme enjeu pour la filière saumon. Et du coup, comment on gère ça? Alors il y a plusieurs moyens. Il y a de la lutte biologique avec l'utilisation de poissons nettoyeurs, de plus en plus, des lompes, des petits poissons ou des labres qui vont être capables d'aller manger le pou sur le saumon. Et après, quand il y a vraiment un développement très fort des poux, il va y avoir besoin en effet de sortir le poisson pour le nettoyer de façon mécanique ou potentiellement chimique. Oui. Et donc comment on compte les poux? On prélève certains individus et puis on compte. Et donc il y a des normes qui sont fixées par les différents pays. Et en Norvège, on parle de 0,5 poux par femelle, il me semble. Ça dépend aussi des périodes. On sort tout simplement les poissons et puis on compte le nombre de poux qu'on peut trouver sur les individus.
La Norvège, elle a essayé d'instaurer des normes au fur et à mesure, d'éviter les insecticides, notamment pour les poux, éviter aussi l'utilisation d'antibiotiques. Aujourd'hui, on utilise plutôt la vaccination ou une sélection génétique pour éviter que ces saumons soient remplis d'antibiotiques. La Norvège, est-ce qu'elle délivre toujours des permis? Est-ce qu'il y a encore de la place disponible pour de nouveaux sites, puisqu'on sait que cette prolifération des poux, elle est aussi notamment due à la surpopulation de ces enclos à poissons, de ces fermes piscicoles. Comment aujourd'hui la Norvège réglemente l'installation de ces fermes, Marc Van de Putte?
Alors aujourd'hui, en fait, et depuis quelques années déjà, il n'y a plus de nouvelles licences de production, c'est-à-dire des autorisations d'installer une ferme en Norvège, sauf des licences de recherche et développement avec des systèmes qui garantiraient l'absence de problèmes de poux de mer. Ce qui fait que on a un développement de systèmes nouveaux de deux types en fait. Soit on a des systèmes qui vont aller au large, des systèmes offshore, où on a des grosses structures inspirées soit des plateformes pétrolières, soit des gros bateaux de commerce, où on va avoir des cuves ou des cages qui vont pouvoir être sur ces structures maintenues très au large et en profondeur. Parce qu'une chose qui est importante à savoir, c'est que le pou, la larve du pou qui va contaminer le poisson, elle est dans les premiers mètres de la surface. Donc quand vous avez des cages flottantes, eh ben elles sont dans les premiers mètres de la surface et les larves de pou rentrent dedans et vont attaquer les poissons. Si par contre vous arrivez à élever vos poissons plus profonds, là, il n'y a pas de larves de pou et les poissons ne vont pas être attaqués. Donc ça, c'est la première direction, c'est cette direction vers l'offshore. Et il y a une deuxième direction qui est la direction de l'élevage à terre, où là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des structures au bord de la mer avec des bassins d'élevage où on va aller pomper l'eau en profondeur, ce qui va faire que ça va être également une eau indemne de larves de poux de mer, et donc où on pourra faire des élevages à terre sans avoir de problème de poux. Et donc, les autorisations d'installation qui sont délivrées en ce moment, elles sont de ce type-là.
Alors, il y a d'autres problèmes que celui des poux, bien sûr. Il y a les produits chimiques utilisés, des dépôts de boue aussi, des zones entières désertées autour de ces fermes piscicoles, des marées d'algues aussi créées par l'azote, le phosphore et tous les déchets aussi de ces poissons qui se retrouvent dans les océans, souvent quand les fermes sont tout près, donc elles doivent déménager ensuite quand les algues deviennent trop nombreuses. Tout ça est très coûteux. Les géants du secteur se plaignent aussi en Norvège d'une taxe qui a été imposée cette année par le gouvernement norvégien. 40% des bénéfices des élevages dans les fjords sont taxés aujourd'hui. Est-ce que tous les pays producteurs travaillent selon des normes et des contraintes à peu près identiques? Ou est-ce qu'il en va, Bastien Sadoul, du saumon d'élevage, comme des volailles du Mercosur dont on parlait la semaine dernière? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas élevés dans les mêmes conditions. Et donc, il y a des formes de concurrence qui se créent entre les pays producteurs.
Alors, oui, non, les réglementations ne sont pas les mêmes entre les différents pays. La Norvège est vraiment... Maintenant, à la pointe hein, de la réglementation. Vous allez avoir tout à l'heure le focus sur le Chili. Les réglementations sont pas du tout les mêmes dans les différents pays, mais c'est aussi lié aux facteurs et conditions climatiques. C'est difficile d'avoir la même réglementation en fonction des différents endroits où on produit du saumon. La production n'est pas réglementée de la même façon suivant les pays.
Parce qu'il y a quand même une sorte de guerre de l'information entre pays producteurs de saumon. La Norvège et l'Alaska, par exemple, chacune accuse l'autre d'élevage toxique. L'Irlande, elle est le plus spécialisée dans le saumon bio. Marc Van de Put, chaque pays producteur essaye de faire valoir un avantage.
Oui, tout à fait. Alors l'Alaska, justement, eux, c'est le saumon sauvage. Donc ils disent notre saumon est sauvage, bien que
avec du mercure,
soit du sauvage issu de repeuplement massif.
Ça vous fait rire.
C'est pas. Oui, ça me fait rire. Oui, non, mais effectivement, chaque pays essaye de jouer sa carte. Ils ont chacun leur marché. Ils sont pas tellement sur les mêmes marchés. Hein. Quand vous voyez le Chili ou l'Alaska, ils vont essentiellement servir des marchés américains et asiatiques. La Norvège va beaucoup plus servir des marchés européens. Bon, certains marchés asiatiques aussi, mais c'est pas du tout... Chacun essaie de tirer son épingle du jeu dans sa situation qui est différente.
Le saumon reste consommé. Est-ce que la demande continue à monter ou, suite aux campagnes qui se multiplient sur les risques sanitaires et environnementaux, la consommation baisse? Et surtout, où est-ce qu'elle, si on devait faire une carte de la consommation de saumon, vous disiez tout à l'heure, je crois que c'était vous, Bastien Sadoul, qui disiez que ça s'était démocratisé, que le prix du saumon avait beaucoup baissé ces dernières années. Néanmoins, est-ce qu'il reste consommé par les pays du Nord, comme pour aller vite, les pays riches?
Alors oui, il reste très fortement consommé. Et puis d'ailleurs, l'offre augmente. Hein. Donc l'augmentation de la production de saumon est bien révélatrice du fait que la demande augmente également. Hein. De toute façon, on produit pas pour jeter derrière. Donc globalement, oui, la demande continue à augmenter. J'ai pas les chiffres pour les pays européens sur les 2-3 dernières années. Est-ce que ça a changé? Je ne sais pas, mais en tout cas, la demande augmente. Oui.
La demande augmente aussi en France, qui se met à faire aussi du saumon d'élevage. Elle en faisait déjà, mais il se trouve que là, la préfecture du Pas-de-Calais vient de donner son accord le 14 février pour la construction et l'exploitation à Boulogne-sur-Mer d'une usine géante d'élevage de saumon qui doit produire plus de 9000 tonnes de poissons par an. C'est un projet de ferme d'élevage hors sol qui utilise la technologie des systèmes d'aquaculture en recirculation. Qu'est-ce que ça veut dire, Marc Van de Put? Qu'est-ce que c'est que ce système et pourquoi ensuite cela permettra à ceux qui ont initié cette usine de dire voilà, ça sera du saumon élevé en France? Certes, mais dans quelles conditions?
Alors, la technologie de l'élevage en recirculation, en fait, c'est une technologie où on va avoir des bassins d'élevage avec des pompes qui font circuler l'eau dans les bassins et derrière un système de traitement qui va enlever les excréments des poissons, qui va enlever l'ammoniac qu'ils excrètent en urinant dans l'eau. Avec ces systèmes-là, en fait, on arrive à avoir des volumes d'eau circulant très importants en ayant une consommation d'eau très faible. Et ça permet aussi d'éliminer un certain nombre des polluants. Donc c'est un système qui peut être, effectivement, comme vous le disiez, quasiment hors sol.
Avec des inconvénients qui sont lesquels, en l'occurrence ?
Alors les inconvénients, c'est que ces systèmes, avec toutes les pompes dont ils ont besoin, ils ont une consommation d'énergie relativement importante. Donc ça coûte cher à faire tourner. Et donc on va avoir tendance à avoir des densités d'élevage quand même relativement élevées dans ce type de système. Et je dirais, enfin aujourd'hui, une interrogation par rapport à ces systèmes-là, c'est la capacité qu'on va avoir à les faire tourner de manière efficace avec du poisson dans des bonnes conditions, sans qu'il y ait de problème qui induirait du mal-être des poissons, de la mortalité, etc. C'est pas encore vraiment, il n'y a pas de normes d'élevage vraiment définies sur ces systèmes. C'est des systèmes qui sont en cours de développement, mais partout dans le monde, par contre. Là, il y a vraiment une explosion partout dans le monde du développement de ce type de système. On prévoit que en 2027, il devrait y avoir 500 000 tonnes de saumon dans le monde produites à partir de ce type de système.
Et pour conclure, alors, avant d'accueillir Natalia Briceño pour parler spécifiquement de la production de saumon d'élevage au Chili, est-ce que les fermes aquacoles aujourd'hui, Bastien Sadoul, s'engagent, promettent de diminuer les impacts environnementaux de la salmoniculture? Y sont-ils encouragés? Sont-ils surveillés, contrôlés pour ça? Comment peuvent-ils le faire?
Alors, ils ont tout intérêt. Ils ont tout intérêt à faire plus attention à leur image, parce qu'ils se rendent bien compte que l'image de la production de saumon est très très mal perçue en France et en Europe de façon générale. Donc, ils ont tout intérêt et donc, l'un des moyens, c'est d'utiliser la technologie pour essayer d'améliorer les choses. Alors, je dis pas que c'est une bonne chose, mais en tout cas, c'est la direction qu'a pris la filière pour continuer à produire de grandes quantités en utilisant soit la technologie à terre, qui est plutôt très consommatrice en énergie, qui pose les mêmes problèmes d'utilisation de poissons sauvages, etc. Ou bien d'aller très loin en mer, ce qu'on appelle l'offshore. Et donc, pour essayer de réduire leurs impacts. Alors, c'est des volontés économiques, je pense, dans un premier temps, mais ça permet aussi d'améliorer l'image, je pense. Ils font appel à des moyens plus technologiques. Et donc, ils ont tout intérêt. Et la filière va vraiment dans ce sens-là.
Donc, des moyens technologiques, de haute technologie, même si des hommes et des femmes continuent à travailler dans l'industrie du poisson, des femmes en particulier au Chili. On en parle avec Natalia Briceño juste après ce titre de Björk et Rosalia. Ça s'appelle Oral, ça date de l'année dernière. Et tous les revenus générés par cette chanson seront reversés par les chanteuses à une organisation à but non lucratif qui lutte contre la pisciculture en enclos ouvert en Islande.
Your mouth floats above my bed at night, my own a private moon. Just because the mind can make up
just because she can.
Björk et Rosalia et leur chanson Oral qui date de l'année dernière. Alors cette chanson ne parle pas de poissons, mais les revenus générés par cette chanson sont reversés à des associations qui luttent contre la pisciculture en enclos ouvert en Islande. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série Des poissons et des hommes. Aujourd'hui, le saumon d'élevage. La seule Norvège en a exporté 1 200 000 tonnes l'année dernière et le secteur a en revanche essuyé beaucoup de pertes. Près de 63 millions de saumons sont morts en une année. L'industrie du saumon peut abîmer les poissons. Au Chili, elle abîme aussi la santé de ses ouvriers.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
L'an dernier, nous en avons vendu pour 5,2 milliards de dollars environ. C'est un record pour ce secteur. Et cette année, ce sera certainement un peu plus encore. Le principal défi, c'est effectivement de rendre cette industrie de plus en plus durable. C'est une branche relativement nouvelle au Chili. Mais nous avons acquis de l'expérience depuis. Et il est clair que l'industrie chilienne a contribué au développement du pays et à l'amélioration de la qualité de vie.
Un représentant de la Fédération industrielle Salmon Chile rencontré par le documentariste Albert Knechtel pour Arte. En 2020, le Chili est le deuxième producteur mondial de saumon après la Norvège et ses exportations ont beaucoup augmenté ces 10 dernières années. Mais l'industrie du saumon détruit les fjords de la Patagonie chilienne. Les ouvriers et surtout ouvrières du saumon de l'île de Chiloé, les despinadoras comme elles s'appellent elles-mêmes, les enleveuses d'arêtes, travaillent quant à elles dans des conditions difficiles. Bonjour Natalia Briceño.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sociologie, affilié au centre Maurice Albvax, auteur de la thèse « Les transformations du rapport salarial dans les trajectoires ouvrières, le cas de l'industrie d'élevage de saumon en Patagonie chilienne ». D'abord, comment cette région est devenue la deuxième productrice mondiale de saumon? Qui a eu l'idée de produire du saumon dans un pays où on se contentait jusqu'à récemment et comme partout de le pêcher dans les rivières à l'état sauvage?
Déjà, il faut signaler que le saumon, c'est une espèce exotique au Chili. Donc, il a fallu faire plein d'études pour voir comment on pouvait élever cette espèce qui n'existe pas au Chili.
Il n'y a pas de saumon pacifique, par exemple, puisque tout à l'heure, on faisait la distinction entre les différentes espèces. Non, le Chili
non,
a fait...
c'est une espèce exotique. Donc, tout ça a commencé vers les années 70. C'était une initiative de l'État chilien et de l'Agence de coopération japonaise. Donc, il y avait vraiment une optique de développement, de voir si ça pourrait être une nouvelle niche pour de développement pour le pays. Et puis, il y a un tournant important au Chili dans les années, vous savez, en 73. Avec,
la dictature d'Augusto Pinochet.
Voilà, et toutes les politiques néolibérales qui se mettent en place. Et dans les années 80, il y a une deuxième phase qui est celle de l'ouverture sur le marché international. Donc, il y a tous les acteurs privés qui viennent à ce moment au Chili, ils commencent à s'installer. Il y a une injection des capitaux internationaux et qui explique d'ailleurs la croissance spectaculaire de ce secteur dans le pays. Et plus tard, dans les années 90, on voit que certains auteurs parlent de la phase de globalisation, de consolidation de l'industrie, avec plein d'accords, déjà la démocratie de retour, plein d'accords commerciaux qui sont mis en place.
Et le saumon devient le deuxième produit d'exportation du Chili après le cuivre, à destination principalement des États-Unis, du Japon et du Brésil. Quel type d'emploi cette industrie a-t-elle d'emblée proposé aux habitants de l'île de Chiloé, puisque c'est elle que vous avez étudiée en particulier, avec de grandes exploitations de ce saumon d'élevage? Quel type d'emploi on leur propose?
Alors, donc là, il faut prendre en compte les différentes phases de développement du saumon. Donc, il y a la pisciculture, puis les cages, l'élevage des cages en mer, dans les fjords, en particulier au Chili, et puis la phase de transformation dans les usines. Moi, j'ai étudié plutôt celle des usines, et c'est des formes d'emploi complètement différentes à celles des élevages.
Donc, dans les usines, en quoi ça consiste?
En quoi ça consiste? En fait, dans les usines, vous avez des emplois stables, vous avez des CDD aussi, vous avez des contrats à la tâche, donc, et de la sous-traitance. Et tout ça coexiste en même temps.
Ça coexiste et puis ça explose au moment où le monde de l'agriculture chilienne connaît une crise de rentabilité. Les revenus des paysans diminuent à ce moment-là, donc ces emplois au départ intéressent les Chiliens et les Chiliennes que vous avez rencontrés. Chiliennes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans la dernière phase de production du saumon d'élevage, la transformation du saumon en usine. Ce sont toujours des femmes qui, avant de travailler comme enleveuses d'arêtes, n'avaient pas d'emploi. Elles ont accepté cet emploi parce qu'elles n'en avaient pas jusqu'à présent.
Effectivement, comme vous dites, ça a devenu quand même une opportunité. Enfin, il faut penser qu'à Chiloé, il y avait vraiment une économie rurale de subsistance. C'était de l'agriculture familiale, la pêche artisanale. Donc avec l'arrivée de l'industrie du saumon, ça se produit un phénomène de salariat de masse, où les femmes sont les protagonistes et les jeunes aussi. Donc aujourd'hui, par exemple, dans la force ouvrière des usines, 60% ce sont des femmes qui sont dans la phase notamment pour enlever les arêtes.
Il y a 32 arêtes, c'est ça, par saumon, oui, je crois. Et elles travaillent combien d'heures par jour?
Alors, eux, les travailleurs du saumon ont un contrat de travail de 8 heures comme tout le monde, mais ils doivent signer un annexe qui est légal de 2 heures supplémentaires. Donc là, on parle notamment en haute saison, là, quand il y a la transformation de 3 poissons différents, pendant les mois d'été chiliens entre octobre et mars, et doivent travailler 10 heures de base. Et puis, il y a aussi des heures supplémentaires qui peuvent se rajouter parce que le niveau de production est trop élevé. Donc, on leur demande de rester pour continuer à transformer la production.
Il y a des Chiliens que vous rencontrez sur cette île qui vous disent, ici, il y a du travail, mais il n'y a plus de famille. Comment cette industrie a transformé le territoire, la vie quotidienne sur cette île, Nathalie Bresseignaux?
Alors, ça a impacté tous les domaines de la vie sociale, économique, sociale, historique, culturelle. En particulier, si on parle de la question de la famille, on va voir déjà, donc, comme on a mentionné, l'intégration des femmes, la salarisation des femmes, donc, et beaucoup de foyers, de mères seules aussi. Donc, les enfants, comme disent les habitants de Chiloé, restent seuls. Donc, il y a, les horaires de travail, les ouvriers peuvent rester même jusqu'à 14 heures dans les usines. Donc ils arrivent, il faut vraiment usine, maison, juste pour rentrer, dormir. Et la vie familiale, elle s'appauvrit.
Même si ce sont des femmes qui vous disent être très heureuses d'avoir trouvé un emploi, d'avoir trouvé leur indépendance aussi grâce à un salaire, mais que les heures sont telles et la difficulté du travail telle que leurs corps sont très vite fatigués, abîmés au bout de quelques années, oui.
C'est que je pense qu'il faut nuancer quand même cette question de cette tension entre émancipation quand même et exploitation. Parce que oui, effectivement, elles ont un salaire. Mais leur santé, leur corps se dégrade. Et en plus, elles veulent que cet emploi, finalement, ça s'arrête à un moment, en fait. Elles ont aussi envie, il y a quelques femmes qui ont envie de revenir, de rentrer à la maison et de ne plus travailler. Parce que ce qu'on leur propose, c'est du travail aliéné et aliénant, finalement.
Même si beaucoup continuent à travailler en attendant de prendre une décision et à accumuler un petit capital, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Certes, beaucoup sont en CDI, mais l'industrie et l'économie de ce saumon d'élevage est telle que peut-être que des entreprises, le droit par ailleurs du travail au Chili est différent de celui d'en France, donc elles pourraient un jour perdre leur emploi du jour au lendemain. Quand survient par exemple en 2007 le virus ISA, infection anémique du saumon qui est véhiculé par les poux de mer, qui est accélérée par la densité des saumons dans les enclos, qui va tuer des milliers de saumons. Les usines commencent à licencier à cette époque-là. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent au chômage.
Oui, exactement. Moi, je fais une enquête dans le sud de l'île de Chiloé, où il y a 27 000 habitants. On pourrait dire qu'il y avait 5 000 personnes qui étaient au chômage. C'était vraiment désastreux. Et en fait, même si l'industrie s'est remise petit à petit, l'emploi, il n'a pas atteint la même rapidité pour revenir, et finalement ça a resté dans la mémoire de ces personnes. C'est-à-dire que c'est un emploi sous menace permanente. Comme il y a des crises qui ont lieu de temps en temps, de différentes natures, les travailleurs ont incorporé cette question de l'incertitude.
Et puisque vous parlez de mémoire, est-ce qu'elle est encore dans les mémoires, cette immense marée rouge qui a eu lieu en 2016? Alors à quoi ça ressemble? D'abord une marée rouge de saumon mort, ou marée noire de saumon mort, 4700 tonnes de saumon mort qui ont été déversées cette année-là au large de Los Lagos. Est-ce que vous en avez eu des échos? Est-ce qu'on se le rappelle? Est-ce que c'était toxique? Qu'est-ce qu'on dit de cette marée?
Alors, ce qu'ils disent, au début, enfin, les plus impactés, c'était les pêcheurs artisanaux. Et au début, les travailleurs du saumon, ils ont manifesté leur soutien, parce que c'était quand même leur, leur source de travail, leur revenu. Mais finalement, ça a impacté, les manifestations ont impacté la circulation des camions avec le saumon. Et ça mettait en péril leur emploi, notamment les personnes qui ont des contrats précaires, des CDD, des contrats à la tâche. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a confronté finalement ces deux groupes, ce qui est un peu triste si on considère qu'au début, c'était en plein soutien. Et puis, ce qu'ils disent, notamment les acteurs syndicaux, c'est qu'ils s'intéressent à que l'industrie puisse bien faire les choses pour que leur emploi ne soit pas sous menace.
Merci Natalia Briceño, restez avec nous. Peut-être parce que je voulais faire réagir Marc Van de Put ou Bastien Sadoul. L'Argentine, voisine du Chili, a fait interdire l'élevage de saumon en 2021 parce qu'elle est témoin des effets nocifs de l'élevage chez son voisin chilien. Alors certes, Marc Van de Put, ça ne lui coûte pas trop cher à l'Argentine puisqu'elle ne fait pas d'élevage de saumon. Néanmoins, est-ce que c'est le seul pays à avoir pris ce genre de décision? Et à entendre ce que dit Natalia Briceño, à la fois sur les conditions de travail des personnes qui travaillent dans ces élevages de saumon et sur les conditions environnementales, ces marées rouges. Est-ce qu'on peut vraiment dire, comme on a conclu la première partie de cette émission avec une note positive, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le modèle qu'on veut pour demain, l'élevage de saumon?
Ah, ben c'est une bonne question. En fait, le modèle d'élevage de saumon actuel, c'est un modèle très industriel, très optimisé. Bon, aujourd'hui, l'élevage industriel n'a pas forcément la cote, hein, mais bon, il faut quand même reconnaître que c'est un véritable succès au niveau économique, au niveau de la quantité de nourriture que ça fournit. Et ces problèmes de marée rouge, ben finalement, c'est souvent lié à une mauvaise installation des sites, au mauvais endroit. Quand on laisse faire les choses sans contrôle, ben oui, les gens s'installent là où c'est le plus pratique et ça peut mal tourner, disons. Mais si on a une bonne planification, une bonne réglementation, normalement, ça va beaucoup mieux. Et pour répondre à votre première question, moi, j'ai pas connaissance de pays qui aient interdit l'élevage du poisson.
Donc, aujourd'hui, à part l'Argentine. Un tout petit mot, peut-être, pour conclure. Natalia Briceño, est-ce qu'aujourd'hui, on se pose la question de l'avenir de cette industrie au Chili, là, vraiment au niveau national?
Bien sûr. C'est quand même le deuxième secteur après le cuivre. Donc c'est un acteur économique très très important et c'est le principal fournisseur d'emplois de la macrozone sud du Chili. Donc il y a quand même 71 000 personnes qui dépendent de cette industrie. Et là, dans le premier bloc, vous parlez des fermes norvégiennes. En fait, est-ce qu'ils donnent plus de d'autorisation d'installation? Ben, elles sont parties au Chili, vous voyez. Et ils vont s'installer de plus en plus dans le sud. Il y a eu la visite des rois norvégiens il y a quelques années dans la région extrême sud de Magallanes. Donc vous voyez, il y a quand même des intérêts à s'installer là-bas.
Merci beaucoup Natalia Briceño, docteur en sociologie affiliée au centre Maurice Albvax, d'avoir été avec nous. Merci Bastien Sadoul, enseignant-chercheur en aquaculture à l'Institut Agro, ainsi qu'à vous Marc Van de Put, animateur du groupe piscicole de l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique, et vous serez bientôt président de la Société Européenne d'Aquaculture. Vous écoutez Culture Monde et c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale, Catherine Dutu.
On n'a pas beaucoup parlé de l'Écosse dans cette émission sur le saumon et vous parlez, Catherine, de l'Écosse sur un tout autre sujet à la une ce matin, puisque c'est créé une polémique depuis l'entrée en vigueur hier d'une nouvelle infraction d'incitation à la haine.
Va-t-elle entraver la liberté d'expression? C'est la question que posent les médias écossais, car cette loi peut prendre dans ses filets des agressions physiques, des propos tenus à l'oral ou en ligne, en public ou en privé, contre une personne ou un groupe entier, explique le journal écossais Daily Record. Cette loi crée donc un nouveau délit d'incitation à la haine, passible de 7 ans de prison, indique la BBC, et fondée sur l'âge, le handicap, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité l'identité transgenre, et c'est ce dernier point qui soulève le plus de critiques et de craintes pour la liberté d'expression, note le quotidien The Scotsman. Parmi les critiques les plus véhéments, Elon Musk, le propriétaire d'X, anciennement Twitter, et J.K. Rowling, la créatrice de la saga Harry Potter qui vit à Édimbourg, rappelle le New York Times. Liberté d'expression et de croyance sont finies en Écosse si la description précise du sexe biologique est vue comme une infraction pénale, a déploré J.K. Rowling dans la droite ligne de ses propos virulents qu'elle a pu tenir ces dernières années en faveur des droits des femmes qu'elle a opposés parfois à la cause des militants transgenres, souligne le New York Times. J.K. Rowling a affirmé hier être impatiente à l'idée d'être arrêtée si ses propos tombaient sous le coup de la nouvelle loi. Son message se terminait même par le hashtag Arrest Me, arrêtez-moi, relève le Scotsman. Un chroniqueur du quotidien écossais abonde dans son sens et parle d'une crainte compréhensible de voir la nouvelle loi utilisée, je cite, comme un bâton par des minorités agressives pour réduire au silence les opinions critiques. David Kennedy, à la tête de la Fédération de la police écossaise, redoute lui d'être débordé par de nouvelles plaintes alors que les agents ont seulement reçu 2 heures de formation sur cette nouvelle infraction pour incitation à la haine. Si les policiers ne sont pas formés correctement, on court à la catastrophe. Le grand public pourrait ne pas comprendre la loi correctement, explique le syndicaliste policier sur BBC Radio Scotland. Il craint, comme d'autres critiques, un flot de plaintes générées par des messages sur les réseaux sociaux et que les gens n'osent plus dire ce qu'ils pensent. Mais les partisans de la nouvelle loi, comme le premier ministre écossais Oomza Youssef, affirment qu'elle contient des garanties pour la liberté d'expression tout en protégeant celles et ceux qui souffrent au quotidien dans leur chair ou mentalement des attaques sur l'orientation sexuelle ou la transidentité, comme le souligne le Guardian et Pink News, site d'information britannique sur l'actualité LGBTQIA+. Those who experience hatred tell me they don't just want warm words from the politicians, they want action. Celles et ceux qui sont victimes de la haine n'attendent pas que des paroles de la part des politiques, mais aussi des actes, a déclaré le Premier ministre écossais Oomza Youssef sur BBC Radio Scotland et Sky News. Et les policiers, dit-il, ont l'habitude de traiter les crimes pour haine raciale qui sont en place dans tout le Royaume-Uni depuis 1986, sans que cela ne crée de controverses. La nouvelle loi écossaise se réfère à la Convention européenne des droits de l'homme et mentionne par exemple le droit d'offenser, de choquer, de déranger, et énumère The Scotsman et la BBC. Dans le cadre de la religion, ajoute le Guardian, la loi sur les crimes de haine exclut les expressions d'aversion, de dérision ou d'insulte. La liberté d'expression est donc garantie. Le gouvernement écossais promet par ailleurs de faire une loi spécifique sur la misogynie, sur la haine des femmes, indique le quotidien écossais The National. Mais aujourd'hui, un éditorialiste du Guardian estime que la situation actuelle rappelle la révolution culturelle de Mao, avec une extension potentielle massive du pouvoir discrétionnaire de la police dans la vie privée et sociale de l'Écosse.
Direction la Chine, Catherine, avec une affaire judiciaire qui se mêle à la série à succès qui s'appelle Le problème à 3 corps sur Netflix.
Pour les fans de science-fiction et de l'adaptation de l'œuvre de Liu Qijin, qui met en scène une civilisation extraterrestre dans le contexte de la révolution culturelle en Chine et d'aujourd'hui, les parallèles sont évidents entre la série et ce jugement pour un meurtre. Perdre son humanité, c'est perdre beaucoup, relève la BBC. Le média public britannique revient sur la condamnation à mort de Shu Yao, 43 ans, connu pour être un avocat distingué. Il s'est laissé consumer par la jalousie contre un ancien collègue, Lin Shi. Ce trentenaire, qui avait fait fortune dans les jeux vidéo, rappelle le New York Times, avait dépensé des millions pour acheter les droits du roman chinois Le problème à 3 corps, mais il a été assassiné avant son adaptation, empoisonné à Shanghai en 2020 par un ancien collègue, donc Shu Yao. Les deux hommes se sont brouillés lorsque Lin a décidé de confier à d'autres cadres la responsabilité des opérations commerciales de sa société. Shu Yao a alors créé une société au Japon pour acquérir des poisons sur le dark web, qu'il a même testé, précise le journal chinois Keixin et le New York Times, sur des chiens et des chats dans un laboratoire clandestin en périphérie de Shanghai. Il a ensuite donné des boissons empoisonnées au café whisky à son ancien chef, qui est mort 10 jours plus tard, en 2020. Shu Yao a été condamné à mort pour cet assassinat, explique le New York Times.
Merci beaucoup Catherine Dutu.